France Musique. Musicopolis. Hollywood, l'âge d'or de la musique de film. Chapitre 2, la musique est partout à Hollywood.
Hooray for Hollywood, and screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pen.
Dans le premier chapitre, j'ai parlé de la progressive augmentation de la place de la musique dans les films de Hollywood. Nous en sommes restés à King Kong, film de 1933, considéré comme un moment très important de l'histoire du 7e art. Grâce à lui, la preuve est faite que la musique est indispensable et qu'elle offre aux images un niveau de lecture supplémentaire. Les films appartiennent tous à des genres bien définis. King Kong, pour sa part, est classé dans les films d'horreur. On trouve aussi à Hollywood des comédies, des films de gangsters, des westerns, des biopics, des drames et aussi, bien sûr, des dessins animés. Déjà du temps du muet dans les salles de cinéma, on pouvait voir des petits films d'animation avant les longs métrages. Des dessins animés qui, comme leurs grands cousins, étaient également muets. Après la sortie et le succès formidable du film sonore Le Chanteur de Jazz, Walt Disney, jeune fondateur des studios Disney et inventeur d'un nouveau personnage, la souris Mickey, comprend que ce qui manque à ses dessins animés, c'est le son. Il décide d'adapter à sa dernière création, Steamboat Willie, une musique et des bruitages qui collent parfaitement au scénario et aux images. Dans Steamboat Willie, Mickey est un jeune mousse sur un bateau à vapeur qui transporte des animaux de ferme. Il réussit à faire monter à bord son amie Minnie. Mais le temps qu'elle prenne pied sur le bateau, une chèvre a mangé la guitare et la partition de Turkey in the Straw qu'elle transportait dans ses bagages. Minnie est d'abord fâchée, mais bientôt elle s'aperçoit qu'en se servant de la queue de la chèvre comme d'une manivelle, elle peut lui faire jouer la chanson. Mickey va s'employer alors à soutenir la chanson en se servant de tout ce qu'il trouve dans le bateau comme instrument. Les casseroles, la queue du chat, celle des petits cochons en train de téter, et même les dents de la vache. Wilfred Jackson, musicien des studios Disney, explique que pour la synchronisation du son et des images, tout était une question de tempo. Sachant que la pellicule avançait à raison de 24 images par seconde, à quelle vitesse la musique devait-elle se dérouler ? J'ai apporté un métronome, raconte Jackson, et je l'ai montré à Walt. Je l'ai fait marcher à 60 et il a battu 60 fois en une minute un battement toutes les 24 images. Puis je l'ai réglé à 120 et on avait un battement pour 12 images. Je pouvais le faire battre à la vitesse qui convenait à Walt pour s'accorder au nombre d'images. Alors j'ai sorti mon harmonica et j'ai joué Turkey in the Straw, soutenu par le métronome. Et Walt a pu dire à quel tempo la musique devait aller pour se coordonner aux images. La première séance d'enregistrement de la musique de Steamboat Willie a été un désastre. parce que le chef n'avait pas bien saisi à quel point il était important de suivre à la lettre les indications de tempo. Mais une fois qu'il a eu compris, tout s'est déroulé impeccablement. Et le jargon des studios allait s'enrichir d'un nouveau terme, le « Mickey Mousing », le fait d'avoir une coordination parfaite entre image et illustration musicale, un quasi-pléonasme musical. L'avenir de la musique de dessin animé était tout tracé. C'est un ami de Walt Disney, Carl Stolling, organiste dans un cinéma de Kansas City, qui lui a suggéré une série de dessins animés d'un genre nouveau, qui combinerait musique et animation. Une série qui allait devenir les Silly Symphonies, symphonies bébêtes. Stolling avait par exemple l'idée d'un scénario qui montrerait des squelettes en train de danser dans un cimetière, avec notamment une séquence de xylophone sur colonne vertébrale. Au début, les dessins animés de la série Silly Symphonies n'ont pas autant de succès que les Mickey. Les Mickey sont acclamés, réclamés et sont beaucoup plus appréciés. Mais les Silly Symphonies, qui ne présentent pas de personnages récurrents, permettent aussi davantage de liberté. On peut y faire beaucoup d'expérimentations, aussi bien dans les techniques de l'animation et du son que dans la manière de concevoir les personnages et de raconter leur histoire. Parmi les innovations rendues possibles dans la série, le Technicolor, qui allait donner aux Silly Symphonies un succès phénoménal et qui vaudrait à Disney le premier Oscar du meilleur dessin animé en 1932 pour Flowers and Trees, fleurs et arbres. Dans Flowers and Trees, dessin animé qui met en scène des fleurs et des arbres, Carl Stolling, le directeur musical des studios Disney, a utilisé des musiques préexistantes. On entendait ici le roi des zones de Schubert. C'est quelque chose qui se faisait déjà, mais que Disney a alors très envie de développer. C'est ce qu'il fera quelques années plus tard dans Fantasia, long métrage de 2 heures, sorti en 1940, où il propose plusieurs grandes œuvres du répertoire de concert, dirigées par Léopold Stokowski, et qu'il illustre à la seconde près par les images animées. Comme le dit l'introduction de Fantasia, le film est né d'une volonté conjointe d'un artiste visuel et d'un musicien de mêler images et musique, de sorte de faire voir la musique et de faire entendre les images. En 1942, Walt Disney et Léopold Stokowski vont remporter pour Fantasia un Oscar d'honneur pour leur exceptionnelle contribution dans l'avancement de l'utilisation du son dans les films cinématographiques et pour la création d'une nouvelle forme de musique visualisée, élargissant la portée du film comme divertissement et comme forme d'art. L'utilisation de musique préexistante dans le dessin animé est donc très courante à Hollywood dans les années 30, 40 et 50, pas seulement chez Disney, bien sûr. On peut citer les musiques et les arrangements de Scott Bradley pour la Metro-Goldwyn-Mayer et notamment les Tom et Jerry, dans lesquels les poursuites et bagarres sadiques entre le chat et la souris se déroulent au rythme du Beau Danube Bleu, de la deuxième rhapsodie de Liszt ou encore de l'ouverture de la Chauve-souris. Mais cependant, selon Carl Stolling, compositeur spécialisé qui a commencé chez Disney et poursuivi à la Warner, 80 à 90% de la musique des dessins animés à cette époque est originale. Ce qui est d'autant plus compréhensible que le travail des studios commence généralement par les dessins, l'animation, le tournage et le montage, et que donc il est logique de composer la musique après pour qu'elle s'adapte exactement aux images. Les studios de la Warner, où travaille Carl Stolling, avec leurs séries Les Looney Tunes et les Merry Melodies, sortent environ 4 courts-métrages animés toutes les 5 semaines. Stolling étant l'unique compositeur, il produit ses partitions à un rythme soutenu de quasi une par semaine. Une fois composé, il donne toutes les instructions pour l'orchestrateur, puis la musique est enregistrée par l'orchestre, dont les musiciens ont des clics de métronome dans leurs oreillettes. Depuis les premiers dessins animés sonores de la fin des années 20, la musique s'est progressivement fait une place avec ses codes et sons Mickey Mousing, ce qui convient très bien pour ces courts-métrages qui durent généralement de 6 à 7 minutes. Mais la question de la musique va se poser différemment lorsque les studios Disney vont sortir leur premier long-métrage d'animation en 1937. De Blanche-Neige et les Sept Nains, on se rappelle surtout les chansons. Et pourtant, comme dans les films hollywoodiens de la même époque, la musique symphonique y est omniprésente. Écoutez par exemple ce passage où Blanche-Neige, épargnée par le chasseur qui devait rapporter son cœur à la reine, doit s'enfuir dans la forêt. « Cours, cours !» lui dit le chasseur. « Dans les bois, n'importe où, ne reviens jamais, cours, cours !»«
Run away, hide, in the woods, anywhere. Never come back, I'll go. Go !»
Dans la scène où Blanche-Neige fuit dans la forêt, tout comme dans les scènes de poursuite des films avec des vrais acteurs, la musique est indispensable pour faire sentir l'angoisse du personnage. Mais dans le dessin animé, le phénomène est encore amplifié. Chaque détail des images est souligné par la musique. Toujours le Mickey Mousing. Écoutez par exemple cette scène dans laquelle Blanche-Neige, avec les gentils animaux de la forêt qui l'accompagnent, découvre la maison des sept nains. Après s'être extasiée et avoir trouvé le lieu adorable, elle remarque que le ménage n'a pas été fait depuis longtemps. On a beau être princesse, on n'en reste pas moins une bonne maîtresse de maison. Chaque nouvelle découverte va être soutenue et mise en valeur par la musique. Oh, regardez cette pile d'assiettes sales. Et regardez ce balai. Ah, mais ils n'ont jamais balayé cette pièce. Pensez-vous que leur mère aurait?
Oh,
peut-être qu'ils n'ont pas de mère. C'est trop triste. Je sais. Nous allons nettoyer la maison pour leur faire une surprise. Alors ils me laisseront peut-être rester. Elle s'adresse aux animaux qui l'ont accompagnée. Vous faites la vaisselle. Vous rangez la pièce. Vous nettoyez la cheminée. Et moi, je prends le balai. Siffler en travaillant, en voilà une bonne idée. Vous avez entendu que l'arrivée de la chanson s'est faite tout naturellement, dans le prolongement de la musique qui accompagnait les images précédentes. Mais justement, l'arrivée d'une chanson dans un film n'est pas toujours aussi naturelle. Ce qui m'amène au sujet des comédies musicales. Je ferais mieux d'y aller. Oh, s'il vous plaît, ne partez pas, ça va être formidable ici. Il y aura un gala de nuit sur l'esplanade. D'habitude, c'est plutôt affreux. Je sais. Eh bien, justement, il vaut mieux rester ici. S'il vous plaît, ne me demandez pas de rester. D'accord, je ne le ferai pas. Ne partez pas. J'ai tellement de choses à vous dire. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of night and day. Bien sûr, dans cette scène du film The Gay Divorcé, La Joyeuse Divorcée, le thème de la chanson Night and Day commençait à se faire entendre de manière subliminale sous le dialogue entre Fred Astaire et Ginger Rogers. Et néanmoins, vous serez d'accord avec moi, la chanson arrive comme un cheveu sur la soupe. Autant Blanche-Neige pouvait de manière naturelle se mettre à chanter en faisant son ménage, autant dans une conversation, même dans un but de séduction, il n'est carrément pas naturel de se mettre à chanter. Ceci dit, c'est un peu comme à l'opéra. On sait bien que dans une comédie musicale, de toute façon, les gens vont se mettre à chanter un peu n'importe quand et sans raison. On n'est pas dans la réalité. Au contraire, on est dans un moment de rêve auquel participent le chant et la danse. La danse qui suit immanquablement la chanson. Comme beaucoup de films musicaux des premières années du parlant, The Gay Divorcé a pour origine une comédie musicale de Broadway, dans laquelle apparaissait déjà Fred Astaire. Cependant, les studios voient aussi tout le parti qu'ils peuvent tirer de comédies musicales conçues spécialement pour le cinéma, et d'emblée à la grande échelle du studio avec ce que peut permettre un espace beaucoup plus grand qu'une scène de théâtre, et toutes les nouveautés apportées par le jeu des caméras. À partir de 1933, les studios Warner vont produire une série de comédies musicales à grand succès, commençant avec 42nd Street, 42e rue, d'après un roman paru l'année précédente.
Come and meet those dancing feet. On the avenue, I'm taking you to 42nd Street. Hear the beat of dancing feet. It's a song I love, the melody of 42nd Street.
L'intrigue de 42e rue se passe à Broadway pendant la Grande Dépression et raconte l'histoire d'une troupe qui monte un spectacle de comédie musicale. Une histoire dans laquelle les chants et les danses trouvent logiquement leur place. Pour la danse, la Warner fait appel à un maître du genre qui emploie un grand nombre de danseuses et qui sait chorégraphier des ballets gigantesques et mettre en scène de grandes formes géométriques, Busby Berkeley. Les comédies musicales chorégraphiées par Busby Berkeley vont trouver leur public tout particulièrement au moment de la Grande Dépression, où les gens cherchent à se divertir et à oublier la conjoncture. Le genre de la comédie musicale, que ce soit en film ou au théâtre, repose sur une histoire qui s'interrompt régulièrement pour laisser place à une chanson ou une danse. Pour les films musicaux, une grande part de leur succès repose sur le succès des chansons. Il est donc important de faire appel à de grands compositeurs et paroliers qui créeront des chansons inoubliables qui attireront le public dans les salles. Les chansons sont souvent interchangeables, on peut en ajouter ou en enlever sans nuire à la compréhension de l'intrigue. Sauf dans quelques cas, comme pour « Le magicien d'Oz ».
It was no miracle, what happened was just this. The wind began to switch, the house to pitch, and suddenly the hinges started to unhitch. Just then, the witch, to satisfy an itch, went flying on her broomstick, thumbing for a hitch.
And oh, what happened then was rich.
The house began to pitch, the kitchen took a hitch. It landed on the wicked witch in the middle of a ditch.
Après le très grand succès remporté par Disney avec Blanche-Neige et les Sept Nains, tous les autres studios voulaient aussi leur film musical et familial. La Metro-Goldwyn-Mayer se lance alors dans le sien, Le Magicien d'Oz, un film de fantasy avec des acteurs en chair et en os. Le tandem compositeur-parolier Harold Arlen et Yip Harburg, engagés pour écrire les chansons, va faire en sorte de les mettre en situation, en faire en quelque sorte des chansons d'action, courtes et très caractérisées.
We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is the wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever, oh, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
En plus des chansons d'action du Magicien d'Oz, le tandem Arlen Harburg a destiné une ballade à Judy Garland, la jeune chanteuse de 15 ans qui tient le rôle de Dorothy, le rôle principal. Ils ont dû se battre pour que la chanson soit conservée dans le montage final, malgré les producteurs qui n'en voulaient pas. C'est aujourd'hui la chanson la plus célèbre du film.
You dare to dream really do come true.
Somewhere Over the Rainbow, extrait du film The Wizard of Oz, Le Magicien d'Oz de Victor Fleming, musique de Harold Arlen et Yip Harburg, et chantée ici par Judy Garland. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Dans le troisième épisode de cette série, je fixerai le projecteur sur trois des compositeurs européens qui ont travaillé dans les studios californiens pour comprendre comment s'est façonné le fameux style Hollywood. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Léa Gramusset pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Lucas Derode pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.